c'est concernant le, enfin, c'est dans Jean chapitre 21, mais après la résurrection, dans Jean chapitre 21, on voit encore une fois Jésus apparaître à ses disciples pour la troisième fois, après la résurrection. Et on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de désillusions, même après la deuxième fois où Jésus est apparu dans la chambre où les disciples étaient, une deuxième fois parce que Thomas n'était pas là, donc deuxième apparition encore, et où Thomas qui doutait, et Jésus l'a invité à mettre le doigt dans ses mains et aussi dans son côté, et ensuite... il est apparu encore une fois, une troisième fois, cette fois, au bord de la mer de Galilée. Et je vais lire juste quelques versets, à partir du verset... verset 9. Dans le contexte, je vais essayer de lire un peu plus haut pour donner le contexte, mais je vais concentrer un peu le message un peu sur les à partir du verset 9 jusqu'à la fin. Verset 4 dit Jean chapitre 21 verset 4 dit le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: non. Il leur dit: jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit: venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander: qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Alors qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: m'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit: paie mes brebis. Donc le contexte de ce passage après la résurrection et après tous les événements qui sont arrivés avant la crucifixion, etc., était déjà très très présent dans l'esprit des disciples. Ils étaient un peu sous le choc encore. D'abord la crucifixion, alors qu'ils avaient pas du tout, ils s'attendaient pas du tout à ça. Ensuite la résurrection, et encore moins. Et là, ils le revoient encore apparaître. Et donc, on peut dire qu'ils étaient sous le choc encore. Et parfois, donc sous le choc, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions plus que de réponses. Parce que dans ce contexte, encore une fois, on voit Pierre, alors que lui il savait que Jésus était ressuscité à ce moment-là. Et si on va au début de ce chapitre 21, en fait, il dit aux autres disciples qui étaient avec lui, il y avait sept autres disciples avec lui, et il leur dit: je vais pêcher. Donc, retourner à son ancienne profession. en quelque sorte. Donc, il n'a pas dit, venez avec moi pêcher, on va aller ensemble. Il a dit, je vais pêcher. Et en disant cela, et les autres disent, oh, alors nous aussi, on va avec toi. Donc, il avait une certaine influence, on peut dire, Pierre, sur les autres disciples aussi, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Personne ne savait quoi faire, ils étaient ensemble. Ils savaient quelque chose d'important et s'était passé, mais sans comprendre ni comment, ni pourquoi, ni quoi faire. Et donc, ils étaient... Et souvent, je crois qu'on peut un peu se... mettre un peu dans les chaussures de Pierre, parce que souvent quand on est perdu dans une situation, la tendance est de retourner de là où on vient, parce que là on connaît au moins d'où on vient. On sait, bon, c'est pas parfait, mais on connaît. Donc il y a un certain confort à retourner à là où on était, à notre ancienne vie. Et c'est ce que Pierre a fait ici. Je vais pêcher, je retourne à mon ancienne profession. Donc c'est plus que la pêche pour le... comme on dit, un dimanche, aller se détendre. C'était pas ça. C'était plus, je retourne à mon ancienne profession. Je sais plus quoi attendre, en fait, de ça, de cette histoire de crucifixion, résurrection, etc. Donc, il y avait une certaine désillusion, un certain découragement et aussi un choc aussi, parmi les disciples. Et Pierre, étant un des disciples qui avait aussi beaucoup d'influence sur les autres, ben il a entraîné les autres, pas tous, mais six autres disciples qui étaient avec lui à la pêche. Mais ce qu'on trouve, encore une fois, là, on voit Jésus qui savait ce qui se passait dans l'esprit, dans le cœur des disciples. Et c'est presque qu'il avait orchestré un peu tout ça, en leur disant un peu, presque comme un rappel de ce qui s'était passé à la première fois quand il les avait appelés à la pêche aussi. Ils ont jeté le filet et puis les poissons. Et là, ils ont reconnu tout de suite. C'est le Seigneur, alors que c'était à peu près 100 mètres ou 200 coudées, à peu près 100-150 mètres. On pourrait pas le voir, mais ils ont reconnu ça peut être que le Seigneur. Et encore, il y a un souvenir de ce qui s'est passé au début, la première fois où on s'est rencontrés. C'est le Seigneur. Jean disait, et Pierre donc le savait aussi. Et donc là on voit Jésus qui leur dit de jeter le filet. D'abord, retourner dans le passé, alors que c'était des pêcheurs professionnels, Pierre et les autres. C'était pas encore une fois pour une pêche de détente, mais c'était des professionnels. Ils faisaient ça pour vivre. Mais toute la nuit, ils n'ont rien attrapé, rien. Donc, aucun poisson, le filet était vide. Et je pense que c'est une leçon aussi pour nous. Retourner dans notre passé, on trouve un filet vide. Il n'y a plus rien, en fait. Et donc, même ce qu'on savait qui était là avant n'est plus là. Donc c'est vraiment retourner en arrière, on retourne vers un filet vide. Et par la grâce, encore une fois, Jésus était venu rencontrer les disciples sur le rivage et leur a dit de jeter le filet, 153 gros poissons, ils pouvaient à peine le retirer. Et quand ils sont venus, la barque était arrivée, tirait le filet, et ils ont vu que le poisson était déjà sur le feu. Et donc, en fait, ils n'avaient même pas besoin de leur poisson, ils avaient déjà du poisson. Et là encore, c'est une leçon, parce que souvent, donc, on a... souvent l'impression, quand on est pris dans les activités et tout, que rien ne peut se passer si on ne fait pas telle ou telle chose. Et cette leçon, c'est que Jésus a dit, ouais, ces poissons, c'est pour vous montrer la grâce de Dieu. Mais je n'ai pas besoin de vos poissons. J'ai déjà du poisson ici. Et il était déjà prêt à manger. Donc, il y a l'étonnement, mais il y a aussi un peu l'émerveillement devant la personne de Christ. Ici, parce que il y avait la grâce, il y avait la patience, il y avait la sagesse, il y avait la puissance. Tout ça était réuni dans ces simples gestes. Jette le filet à droite, amenez le filet ici, venez manger. Tout ça, c'est des choses simples finalement, rien de trop compliqué. On peut préparer un repas, inviter des amis. Mais la manière dont Jésus l'a fait était remplie de sagesse, de puissance, de grâce, d'amour pour les disciples, de patience. Et c'est ça qui fait que donc le message est très puissant aussi. Et quand on fait ces choses de façon simple, Dieu ne demande pas de faire des choses extraordinaires tous les jours, mais par les moyens simples, l'œuvre de Dieu se fait. Et donc quand on est prêt à écouter le Seigneur par les moyens simples, les choses simples, eh bien il fait son œuvre, une œuvre extraordinaire. Parce que Dieu a choisi les choses faibles pour confondre celles qui sont fortes. Et donc c'est le moyen par lequel l'Évangile se transmet de personne à personne, de génération en génération et de nation à notre nation. Par ces moyens-là, afin que la gloire ne soit pas dirigée vers les personnes pour l'idolâtrie, mais plutôt pour Dieu qui est l'auteur de tout ça. Et donc les disciples ne pouvaient que constater encore une fois la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, par le moyen de la foi en Christ et par ce simple petit déjeuner sur un feu avec des poissons et du pain. Et donc c'est cela, donc, comme on lisait tout à l'heure, Dieu qui nous fortifie. Et dans toutes ces choses, ces étapes de la vie des disciples, depuis le premier moment où ils ont rencontré Jésus, ils étaient encore aussi pécheurs à ce moment-là, jusqu'à ce moment précis là où ils étaient un peu dans la désillusion, et bien Jésus les a rencontrés encore une fois et il les a fortifiés. Donc Dieu qui nous fortifie. Qui est à chaque étape de cette histoire. Et Pierre en particulier était un exemple, parce que pendant toutes les périodes de 3 ans et quelques où Jésus a vécu avec ses disciples tous les jours, eh bien on voyait Pierre très sûr de lui. Il ne doutait presque jamais, donc c'était une foi un peu aveugle dans un sens, parce que sa foi n'était pas vraiment dans la vérité en Christ, mais plutôt dans sa propre force, la fidélité. Et il y a plusieurs exemples qu'on peut lire et regarder. D'abord, quand Jésus avait annoncé sa mort, Pierre lui dit « Non, jamais, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et le même, enfin, moment, quelques instants auparavant, il a dit « Qui dit tant que je suis ?» Et Christ, c'était lui qui a fait cette belle confession. « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Et Jésus a dit « Tu es heureux, Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, extraordinaire. Comment est-ce que Pierre a pu faire cette annonce, alors que même les scribes et les pharisiens n'ont pas vu ça? Et quelques instants après, il a dit « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. Comment ça, la croix ?» Donc, il a annoncé ça. Et vous savez ce que Jésus a dit « Arrière de moi, Satan. » Le même instant, presque. C'est juste d'une phrase à une autre. Et donc, tout cela nous doit conduire encore une fois à l'humilité et à la dépendance en Christ et non pas à notre propre force et sagesse. Parce que notre sagesse et nos propres moyens sont très, très fébriles. On peut être fort à un moment et très faible à un autre moment. Et on peut être sage à un moment et fou à un autre moment. Et donc, notre sagesse doit être celle de Dieu et dépendre de la sagesse de Dieu. Parce qu'en dehors de ça, on ne peut pas avoir cette constance dans la sagesse et dans la foi. Et il y a d'autres exemples aussi concernant Pierre. Quand Jésus a voulu laver les pieds des disciples, c'est lui qui a dit « Non, jamais, moi non. Et si tu veux me laver, alors on va laver tout le corps. » Et Jésus lui a dit encore une fois « Si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part avec moi. » Donc on voit par ses traits de caractère la personnalité de Pierre, qui était très sûr de lui, qui presque avait une foi très forte de l'extérieur. Quand on voit, en fait, Si on pouvait voir un peu le film des disciples, on dirait que Pierre était presque l'apôtre au moment même où Jésus était là, parce qu'il était très sûr de lui, il avait une réponse presque à tout, mais en fait il était très faible, et Jésus a dû petit à petit lui révéler qui il était vraiment, alors que lui ne connaissait pas sa propre faiblesse. Et c'est souvent notre cas, parce que cette histoire de Pierre est allée encore plus loin, jusqu'au reniement. Donc alors qu'il était, même si les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas, j'irai en prison et même jusqu'à la mort s'il le faut. Et Jésus lui a dit, d'ailleurs à ce moment même, à cet instant même, c'est dans l'évangile de Jean, qu'il a dit le coq ne... j'essaie de trouver... Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et on ne sait pas ensuite quelle a été la réaction de Pierre, mais peut-être qu'il a juste mis ça de côté. Non, ce n'est pas possible. Moi, renier, c'est impossible. Alors qu'il, donc on sait ce qui s'est passé après, parce qu'il a renié le Seigneur trois fois, juste après. Mais Jésus a dit à lui, mais à tous les autres disciples aussi, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. » Il a dit, « Mais j'ai prié pour vous, pour que votre foi résiste, tienne ferme. » Donc, ce qui fait que ces disciples-là en particulier sont restés, ce n'était pas parce qu'ils étaient meilleurs que Judas. Judas, lui, est tombé et n'est jamais revenu. Mais parce que Jésus a dit, « Mais j'ai prié pour toi afin que tu te relèves, afin que tu résistes. » Et donc, c'est la prière du Seigneur et c'est la grâce du Seigneur, encore une fois, qui fait que nous restons encore dans la foi. Et cela doit nous inciter à l'humilité, à la grâce, de reconnaître la grâce de Dieu, la vie qui vit en nous, qui agit en nous. Et donc, quand Pierre, quand à la fin de ce chapitre 21, Jésus lui a demandé trois fois, m'aimes-tu ? Encore une fois, donc il était sûr, mais pas aussi sûr quand même qu'avant, parce que au bout de trois fois, on commence à douter. D'abord, il était sûr de sa réponse, oui, et deuxième fois, oui, et troisième fois, il était triste. Parce que c'est comme si, en fait, il commençait à douter même de sa propre réponse, s'il aime le Seigneur ou pas. Et donc là, ce qui est clé dans ces trois questions, ou cette question que Jésus a posée trois fois, c'était pas vraiment la réponse, parce que la réponse était la même. Enfin, ce que Jésus a demandé à la fin était la même. Paye mes agneaux, paye mes brebis, paye mes brebis. Mais c'était plutôt la question. M'aimes-tu? Et je pense que cette question devrait faire partie de notre culte quotidien. Et mettre notre nom dessus plutôt que celui de Pierre. M'aimes-tu aujourd'hui? Jésus me demande, m'aimes-tu aujourd'hui? Parce que si c'est vrai, donc le déroulement de la journée devrait reflétait cela et doit changer, devrait changer. Si on regarde à hier, est-ce que on peut répondre oui à cette question, et etc. Donc c'est pas une question simple, aussi simple qu'on le croit, ou à mettre de côté une fois qu'on a répondu une fois, mais plutôt de façon quotidienne. Et Jésus a révélé à Pierre la façon dont il parlait de sa mort, et etc. Et que ce qu'il avait fait quand Satan avait demandé à les cribler, lui et les autres disciples, eh bien la prière de Jésus est ce qui a soutenu Pierre et qui l'a fait apôtre. Non seulement apôtre, mais une pierre. C'est son nom, Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et donc, avec toutes les faiblesses qui étaient étalées, toutes ces échecs qui étaient là, qui sont là dans les évangiles, eh bien, Dieu a fait de lui une pierre sur laquelle il a bâti son église, donc un apôtre de l'évangile. Et donc, Dieu peut faire de chacun de nous une pierre aussi. Et que, quelle que soit notre profession, de ce qu'on fait comme profession, eh bien, Dieu nous a appelés à cette profession afin d'être une pierre dans cette profession, exercer l'influence que Dieu nous donne par notre humilité, par refléter en fait la grâce de Dieu, l'amour de Christ. Et dans Philippiens, il dit l'amour de Christ nous presse, compresse. Donc, il ne peut pas rester dans la bouteille, si on considère ça comme on presse, et puis le contenu sort. Donc l'amour de Christ nous presse. Et nous sommes appelés, donc comme les disciples, nous sommes appelés à être des évangélistes, des gens qui annoncent l'évangile par notre travail, par notre comportement quotidien, par nos paroles. par les choses simples aussi. C'est pas des choses forcément qu'il faut organiser en grand, mais par les choses simples, parce que c'est ces choses simples qui créent une continuité dans notre message. Et non pas des points, des gros flashs, et puis rien, pour un certain autre flash, mais plutôt une certaine continuité. Une lumière, c'est un faisceau qui continue. Donc partout où il passe, la lumière est là. Et c'est pas seulement un passage comme une étoile filante. Une étoile filante, c'est une étoile morte, en fait, qui crée une lumière juste à son passage, après plus rien. C'est le noir absolu, c'est les ténèbres. Non, c'est un faisceau de lumière que Dieu veut faire de nos vies, qui demeure, donc qui a une continuité. Et si on regarde un faisceau, c'est des petites particules lumineuses, etc. Si on analyse un peu, Albert fait de la chimie, je crois qu'il peut expliquer. mais c'est des petites choses quotidiennes qui font que Dieu fait de grandes choses. Peut-être même au-delà de notre propre vie même. Hein, on a beaucoup d'exemples de biographies qui sont écrites là-dessus, des gens qui ont vécu sans voir vraiment beaucoup de fruits dans leur vie quotidienne ou dans leur ministère, mais où Dieu a fait de grandes choses, et on peut voir après peut-être, plus tard. Et donc, cela doit nous renforcer dans notre foi quotidienne, et puis dans le fait que le Seigneur a un ministère pour chacun d'entre nous, là où nous sommes aujourd'hui. La plus grande faiblesse qu'on a, c'est de pouvoir être trop confiant, en fait, en nous-mêmes, et de penser qu'on développer une trop haute confiance. Parce que la confiance, c'est bonne, mais jusqu'à un certain degré. Après, elle devient mauvaise jusqu'à un autre degré. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance donc à compter sur les forces du passé. Parce que ça, on a réussi là, donc on va réussir encore aujourd'hui et demain. Alors que ce qui s'est passé, et si cette révélation que Pierre avait faite, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, était là un instant, mais ensuite il est retourné dans une autre partie de sa personne qui était en fait une faiblesse et qu'il a essayé de renier la crucifixion. Et ce que Jésus a annoncé. Et donc, il y a confiance, mais qu'il peut devenir une faiblesse. Elle doit être ancrée sur Christ. Donc, le retour vers le passé, et en fait, c'est souvent la réaction humaine quand il y a une impasse, quand il y a un découragement. Le filet est vide dans le passé. Donc, si on retourne à notre ancienne vie, après avoir goûté le Seigneur, après avoir été parmi l'Église et avoir goûté sa retournée, Hébreu, on parle encore plus, mais on trouve le vide, en fait, parce qu'il n'y a plus rien dans cette vie. Et c'est une grâce de Dieu que c'est le vide, en fait. Parce que, encore une fois, on est amené à rechercher le Seigneur, parce que c'est en lui que nous avons le salut, et pas dans l'ancienne vie. Jésus a rempli parfaitement toutes les conditions de notre salut, et donc on n'a pas œuvré pour notre salut. Les œuvres qu'on fait ne sont pas là pour mériter ou pour gagner le salut, mais c'est plutôt l'expression d'une vie nouvelle, parce que 2 Corinthiens 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Les choses anciennes sont passées, donc laisse le passé passer. Dieu est maître du passé, et c'est lui qui nous a lavé, qui nous a régénéré, qui a enlevé nos péchés passés, pour qu'on, non seulement qu'on n'ait plus à faire face à la condamnation du péché, mais il dit qu'il les a même effacés au point où il ne s'en souviendra plus. Et donc, regarder vers la nouvelle vie que Dieu nous donne. Nous sommes une nouvelle création en Christ. Et cette nouvelle création vient avec une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, donc, se transforme de gloire en gloire à l'image de Christ. Et c'est une œuvre que Dieu fait en nous et qui continue par la force qui habite en nous, par le Saint-Esprit et par sa parole qui est aussi en nous et qui est avec nous. Donc, Dieu a pourvu tout ce qui est nécessaire à notre salut et à notre sanctification. Donc les deux, notre salut et notre sanctification. Donc soyons fortifiés par la parole de Dieu chaque jour et que l'œuvre de Dieu continue à porter son fruit là où Dieu nous a implantés. Utilisez donc les dons et que Dieu nous donne chaque jour pour être fidèles dans ces moments-là. Et regardez comment Dieu œuvre dans nos vies par les petites choses. Et parfois, elles sont tellement petites qu'on les voit pas, c'est presque invisible. Et Dieu fait cette œuvre en secret. C'est pour ça que donc on trouve souvent les paraboles, les images avec les graines de sénévé, des graines qui sont tellement petites que elles sont presque insignifiantes. Mais quand elles sont là un certain temps, eh bien, ça devient un arbre très grand. Et donc, c'est ce que Dieu veut faire aussi avec nos vies, avec ces petites choses. Et aussi dans le milieu là où il nous a placés, parce que par la puissance de Dieu qui agit en nous, qui agit puissamment en nous, et par le moyen de sa grâce, son œuvre va toucher des dizaines, des centaines. C'est comme la parabole du semeur qui se multiplie jusqu'à plusieurs fois. C'est une multiplication de bénédictions. C'est pas une addition, 1 plus 1 plus 1, mais plutôt 1 fois 1 fois. Et si on le fait ça quelques fois, on peut arriver très vite à des chiffres très très grands quand on fait la multiplication. Et donc, ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pas des additions, ni des soustractions, ni des additions, mais il fait des multiplications. Et ça, depuis le début, la création. Il a donné à Ève, à Adam et Ève de se multiplier, remplir toute la terre. La même chose s'applique donc à nous comme disciples de Christ. Multiplier. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que la vie en Christ se multiplie aussi. C'est une transmission de la vie à ceux qui sont sans Christ. Et donc, que Dieu nous fortifie par les versets, par sa parole et aussi par l'Esprit Saint qui habite en nous et que donc la parole de Dieu soit pleinement et richement en vous chaque jour, et quelles que soient les conditions et les circonstances, et quel que soit le lieu où vous vous trouvez, afin que l'œuvre de Dieu puisse se multiplier autour, et que ce soit une lumière constante, sans discontinuité. Donc, prions.